Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Laetitia a 3 enfants, et comme les accouchements peuvent se suivre mais ne se ressemblent jamais, les siens ont été différents les uns des autres, avec toujours pour point commun l'arrivée avant terme de ses bébés, dans des situations parfois insolites. Elle a également vécu 13 ans avec le papa de ses enfants avant qu'il ne la quitte pour reconstruire sa vie ailleurs. Dans cet épisode, Laetitia nous raconte ses grossesses, sa séparation et comment elle a vécu cette nouvelle vie à laquelle elle ne s'attendait pas du tout. Sans tabou, elle lève le voile sur ses émotions, ses difficultés et sur tout le chemin accompli depuis qu'elle s'est retrouvée seule avec ses 3 enfants. Bonne écoute! Bonjour Laetitia!
Bonjour Shane.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
Eh bien, avec grand plaisir.
Alors, tu es la maman de 3 enfants.
Absolument.
Et ils ont quel âge ?
Alors, il y a Noah qui a 11 ans, Liam qui a 9 ans et Lina qui a 6 ans.
Alors, on va repartir au tout début de ton histoire.
Ok.
Donc, tu étais mariée.
Absolument.
Et à quel moment le sujet de la maternité est arrivé au sein du couple ?
Alors, il n'est jamais vraiment arrivé. Clairement, on va parler sans langue de bois, il n'est jamais arrivé. Ces 3 grossesses, enfin 5, il y a eu 2 avortements, mes 3 grossesses qui me sont tombées dessus, littéralement. Enfin, qui me sont tombées dessus, on s'entend. On sait comment on fait les bébés. Mais voilà, il n'y avait pas eu vraiment de discussion à proprement parler, à se dire quand est-ce qu'on fait un bébé ou quoi que ce soit. En fait, on a vraiment laissé la vie, entre guillemets, décider pour nous. Et ce qui est assez drôle, entre guillemets, c'est qu'il a toujours flippé, en fait, pour les 3 grossesses. Et surtout pour la première, il ne voulait pas, du tout. Et en fait... Moi, juste avant ça, un an et demi, je sais plus, on habitait encore chez mes parents. Enfin, lui, il était venu habiter chez mes parents. J'étais tombée enceinte. Et la vie a fait que je suis tombée enceinte. Sous pilule, entre guillemets, parce que j'étais tombée malade et j'avais oublié la pilule. Enfin bref, le truc quand on a 20 et quelques années. Mmh. Et là, la question ne s'était même pas posée. Enfin voilà, j'en ai parlé, mais on était raccord sur le fait que voilà, c'était pas le bon moment, qu'il y avait pas. Enfin, la question ne s'était même pas posée et je l'ai fait et j'ai pas regretté du tout. Et donc, 1 ou 2 ans après, je ne sais plus, on était installés ensemble, enfin voilà, on travaillait, etc. Et je suis retombée enceinte. Et en fait, là, la donne avait complètement changé. Donc, je lui ai annoncé, il a flippé. Il m'a dit non, mais c'est pas possible, etc.
Vous aviez quel âge, tu l'as dit, là ?
23 ans.
D'accord.
23 ans, on était installés depuis une petite année, enfin voilà, on était stable, enfin voilà, il n'y avait pas d'ombre au tableau, on va dire, quant à cette grossesse. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc il a flippé, sauf que moi, en fait, j'étais déjà accrochée à cette grossesse, comme si je savais que c'était Noah, en fait. Je lui disais, écoute, c'est pas grave, je vais assumer toute seule, je dis, je veux pas t'empêcher de vivre, je veux pas t'empêcher de. Enfin voilà, c'est. Certes, c'est une décision à deux. Maintenant, là, je serais incapable d'aller avorter, quoi. Je disais, écoute, c'est simple. Là, ce que tu me demandes, c'est est-ce que tu préfères te couper le bras droit ou le bras gauche ? Et pour moi, c'était inenvisageable, en fait. Donc, je disais, écoute, je suis désolée, mais je peux pas abandonner mon bébé. Donc, on se sépare et on verra. Bref, finalement, on est restés ensemble. Et puis, au bout de quelques semaines, il m'a dit, écoute, c'est bon, on y va. Donc là, le soulagement, donc, on y a été, hein, on a fait cette grossesse, et puis Noé est arrivé, et, plus beau jour de notre vie, enfin voilà.
Alors comment elle s'est passée cette grossesse ?
Parfaitement, franchement, alors de ce que je me souviens, parce que bon, il y en a eu deux autres après, pas mal de nausées au début, pas mal de nausées, et sur la fin, beaucoup de, alors je sais plus comment on appelle ça, mais des aigreurs. Des brûlures, ça a été très dur ça par contre. Mais sinon, à part ça, franchement, au top, et tellement au top que... Alors, j'ai eu des contractions de... Alors, pas de travail, mais de... Je sais pas comment on peut appeler ça, des contractions de fatigue ou de... Bon, des contractions du ventre, en tout cas, très tôt.
D'accord.
Très, très tôt. J'avais un risque d'accoucher un petit peu plus tôt, mais bon, sans trop savoir. Ce qui est rigolo, c'est qu'un jour, on est parti. Donc, j'avais mon terme début janvier. Et un jour de fin novembre, le 27 novembre, je m'en rappelle encore. Le 27 novembre, donc on était en 2008. On va sur Paris, je sais plus trop pourquoi. Et j'avais pas mal de contractions. Et à l'époque, du coup, le père des enfants me dit « Ah, je crois que je suis patraque. Je me demande si j'ai pas une gastro ou un truc comme ça. Ou est-ce que j'ai mangé un truc qui va pas ?» Et donc moi j'avais ces contractions, et puis bon, c'est la première grossesse, donc je me dis bon, si t'as une gastro, on va peut-être rentrer, aller voir le médecin, on sait jamais, je sais pas trop, voilà, pour le bébé, etc. Donc on file chez le médecin, et elle me dit bon, je sais pas, en une heure, est-ce que vous pensez que vous avez eu au moins 10 contractions? Je dis oulala, mais largement, on est bien plus qu'à 10 contractions. Elle me dit bon, est-ce que vous me permettez de vous ausculter? Je dis oui, bien sûr, y a pas de problème, etc. Et donc elle m'ausculte, et elle me dit bah en fait, dès que vous sortez du bureau, vous allez à la clinique. J'avoue, mais pourquoi? Bah, elle me dit, vous êtes en train d'accoucher, en fait. Ah, mais vous êtes sûre? Ah oui, vous êtes à 2 doigts et demi, donc oui, elle me dit, vous auriez été à 3, j'aurais appelé les pompiers. Ok, très bien, et puis forcément, bah, t'as pas la bonne culotte, t'es pas épilée, t'es à ton touch. Ok. Et effectivement, quand j'étais, donc on a été direct à la clinique, branle-bas de combat, ils ont tout fait pour m'arrêter les contractions, finalement. Et donc... Pour rappel, on était le 27 novembre, j'étais prévue, je crois, le 5 janvier, un truc comme ça. Là, les sages-femmes me disent « Bon, bah là, vous restez jusqu'à la fin de la grossesse. » Moi, je me suis...
Ouais.
Moi, je me suis jamais faite hospitaliser. Et là, je me dis « Non, mais c'est pas possible, en fait. Moi, je vais déprimer. Je peux pas rester en milieu hospitalier. Vraiment, je peux pas, quoi. » Et la chance que j'ai, c'est que du coup, mon obstétricien était un ami. Enfin, voilà, c'est lui qui m'avait avorté la première fois. C'est un ami de la famille. Et finalement, au bout de 2-3 jours, quand il m'avait vraiment stoppé les contractions, il m'a dit, écoute, c'est bon, tu peux rentrer. Par contre, tu prends un médicament pendant, je sais plus, une semaine. Par contre, comme le col est déjà ouvert, que c'est un beau bébé, que voilà, on voit qu'il n'y a pas de problème, on va te déclencher, on va prendre rendez-vous pour un déclenchement. Si ça vient avant, c'est pas grave. Si ça vient... sinon, on te déclenchera, il n'y a pas de souci.
Et pourquoi tu ne pouvais pas accoucher maintenant? C'était
parce qu'ils estimaient que c'était trop tôt. Ils ne savaient pas encore si les poumons étaient assez matures, etc. Donc, okay. Et d'ailleurs, je me demande si j'avais pas eu une piqûre pour ça. Il y a une piqûre, alors je ne sais plus le nom, mais il y a une piqûre pour faire en sorte que les poumons soient matures plus rapidement, en fait, quand tu as des risques d'accouchement prématuré. Et il me semble que j'avais eu ça. Du coup, je rentre à la maison, je prends mes médocs, là j'ai plus du tout de contraction, sauf que j'avais vraiment un ventre énorme, j'avais pris 25 kilos. Bon, c'est vrai que je suis grande, donc ça devait pas trop, mais quand même, j'avais un ventre. Les gens me demandaient si j'attendais pas des jumeaux, tu vois, pour te dire. Et finalement, donc j'arrête les médocs, etc. Et j'arrive au rendez-vous le 15 décembre, en fait. Finalement, il n'y a plus rien qui se passe. Pourtant, la veille, j'ai tout tenté, le ménage, le monter, descendre les escaliers. Enfin bref, il n'y avait rien à faire. Arrivé le 15 décembre, on arrive, etc. Elles me mettent en place, elles me mettent la... Alors, moi, je voulais pas la péridurale parce que j'ai une peur bleue. Mais c'est même pas une peur bleue, c'est une angoisse, une aversion pour tout ce qui est... comment on appelle ça? Anesthésie.
D'accord.
Ça me fait peur, vraiment. Et du coup, elle me dit, bon, bah, vous voulez l'anesthésie, etc. Non, je veux pas de péridurale. Elle me dit, bien sûr, oui. Et donc, elle me met la perfusion, etc. Donc, le père du petit me dit, mais t'as pas mal, là? Je dis, non, ça va, je gère. Je dis, ah ouais, parce que les contractions, je dis, non, mais ça va. Finalement, elle me dit, bon, bah, par contre, on va vous percer la poche des os, donc préparez-vous. Elle te perce la poche des os. Et là, tu te dis, mais alors, en l'espace de, je sais pas, un quart de seconde, quand l'eau a coulé, tu dis, j'ai crié, joué la péridurale. C'était horrible. Je me rappelle encore de la douleur. Mais c'était waouh. Et donc j'ai dit non mais les gars, je veux la péridurale, c'est bon, mettez-moi la péridurale s'il vous plaît. Et finalement ils me l'ont mise. Alors c'est marrant parce que aux 3 grossesses, c'est toujours à ce moment-là où je craque. Quand on me met la péridurale, je pleure.
Ah
oui. Ah ouais. Le côté faut pas bouger, tu te dis punaise, s'il te loupe, tu peux être paralysée. Enfin voilà, c'est vraiment un truc qui m'angoisse beaucoup. Et du coup, c'est toujours à ce moment-là où je craque. Mais bon, finalement, ça s'est très bien passé. Et j'ai vraiment eu un accouchement de rêve. D'ailleurs, c'était marrant parce qu'il est né le 15 à 15h15. Donc moi, je crois beaucoup aux chiffres. Tout ça, c'est vraiment un truc qui me parle. Et finalement, j'ai poussé 2 fois. Il est arrivé et trop bien, tout propre. Enfin, vraiment au top, quoi.
Et alors, est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman ?
À 200%.
Ouais.
À 2 milliards %. Pourtant, c'est marrant parce que, enfin, autant je me suis, entre guillemets, je dis battue, mais oui, c'est presque ça. Je me suis un peu battue pour le garder, finalement. Enfin, tu vois, je... Mais bizarrement, quand j'étais enceinte... Oui, je me sentais maman, mais pas plus que ça non plus. Tu vois, j'étais pas là à me toucher le ventre toutes les 15 secondes, à lui parler. Mais ouais, non, on l'a, à partir du moment où on me l'a posé sur moi, j'étais sa maman. Il n'y avait pas besoin de me dire quoi faire, comment faire. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que quand le pédiatre, tu sais, t'as le pédiatre qui vient voir comment ça s'est passé, qui vient voir le bébé, etc. Il me dit, bon alors, c'est votre 1000ième enfant ? Je dis, bah c'est le 1er. Il me dit, bah dis donc, on dirait que c'est le 4e, vous êtes bien, pimpante, fraîche. Je dis, ah non, c'est le 1er. Et tu vois, et je pense que ça s'est ressenti parce que j'étais vraiment extrêmement à l'aise. Après, j'ai une petite sœur, enfin j'ai 2 petites sœurs, mais notamment une, on a 8 ans d'écart. Donc je pense que j'étais un peu, entre guillemets, la deuxième maman. J'ai toujours aimé ça de toute façon. J'ai toujours aimé les conversations avec les personnes plus âgées que moi et notamment avec les mamans. C'est vraiment des discussions qui me parlaient, que j'aimais, quoi. Donc non, là-dessus, tu vois, j'ai vraiment été super à l'aise. On est rentré à la maison, je prenais le bain. Enfin, j'ai vraiment là-dessus, pas de soucis du tout, quoi. Vraiment.
Et alors, au bout de combien de temps vous avez décidé de faire un deuxième ?
Alors encore une fois, il n'y a pas vraiment eu de décision. Vraiment, comme je t'ai dit, pour moi, c'est la vie qui m'a apporté mes enfants, en fait. Mmh. Vraiment. Je prenais, je sais plus si j'avais la pilule ou le stérilet. Je crois que je prenais la pilule, puis à un moment donné, je la supportais plus du tout. Vraiment, c'était horrible. J'avais retenté une autre, je crois, mais pareil, ça me mettait vraiment pas bien. Et donc, le deuxième arrive, et pareil, il flippe.
C'était au bout de combien de temps ?
C'était plutôt rapide. Je suis tombée enceinte de Liam. Noah devait avoir entre 9 mois et 1 an.
Ok.
Donc voilà. Et pareil, sans vraiment. Enfin, on n'a même pas réfléchi. Problème de. Voilà. Enfin, je te dis, la pilule, etc. C'était compliqué. Et donc, pareil, il flippe. Et moi, pareil, deuxième grossesse, je me dis non, je peux pas, je sais pas, je peux pas avorter, c'est pas possible. On a une situation, on est ensemble depuis X années. Et puis pareil, c'est surtout ce ressenti, tu vois, je saurais pas l'expliquer, mais impossible, tu vois. Je me dis, pourtant, moi je suis ouverte à l'avortement, il n'y a pas de problème là-dessus, moi j'en parle de manière complètement ouverte, consciente, et il n'y a pas de souci. Je trouve que heureusement que les femmes ont ça, franchement. Mais là, je pouvais pas, c'était pas possible. Et donc pareil, je pense qu'il flippe. Et finalement, au bout de quelques semaines, pareil, il me dit « Non mais en fait, excuse-moi, j'ai flippé, let's go, y a pas de problème. » Deuxième petit garçon. Et petite parenthèse pour le premier aussi, Noah, j'étais ultra contente que ce soit un garçon. Ouais. Je voulais absolument que ce soit un garçon. Ouais. Parce que nous, on est 3 filles à la maison. Et mon père a toujours voulu avoir un garçon et je voulais le rendre fier d'avoir un petit garçon et c'était le plus heureux des grands-pères. Vraiment le papy gâteau, il était trop content et du coup j'étais vraiment contente d'avoir un garçon. Et Liam pareil, j'étais super heureuse d'avoir un petit garçon, vraiment voilà. Et du coup le papa pareil, il a été vraiment content.
Et tout s'est bien passé aussi, grossesse ?
Alors différent, très très différent parce que du coup j'ai monté en même temps un projet, j'avais une boutique, enfin j'ai monté une boutique en fait. J'ai monté le projet en 3 mois et j'ai dû apprendre au même moment, à peu près à la même période que j'étais enceinte. Mais du coup, qui dit boutique seule, tu montes les cartons, tu descends les cartons, tu bouges pas mal. Et moi en fait finalement, de par ma maman, de par notre côté méditerranéen, je pense, on a cette facilité d'accouchement. On a l'école qui s'ouvre très rapidement. Okay. Moi, ma maman, elle a eu aucune péridurale parce qu'elle accouchait tout le temps. Là, madame, vous accouchez quoi ? Elle arrive à l'hosto et elle dit bon, là, ça y est, c'est là quoi. Ok.
C'est des origines espagnoles.
Ouais, exactement. Et c'est vrai qu'a priori, d'après mon gynécologue, qui plutôt réputé dans le domaine, voilà, il est vraiment spécialisé dans le domaine de la fertilité, voilà, les accouchements, etc., les bébés et tout. Il me disait que c'est vrai que les brunes, on avait cette chance-là d'avoir le bassin un peu plus large. Et du coup, bon, après, est-ce que c'est vérifié ou pas, je ne sais rien, mais c'est ce qu'il m'avait dit. Mmh. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais eu aucune difficulté à accoucher. Et d'ailleurs, voilà, pareil, tous mes accouchements, j'ai accouché toujours avant terme. Et Liam, pour le coup, un mois et demi avant terme, parce qu'on n'a pas réussi à me retenir. Enfin, j'ai percé la poche, enfin, j'ai eu un début de perte des os en amont, tu vois, dans mon lit. Et du coup, on ne pouvait plus arrêter l'accouchement. À partir du moment où ça se fissure, tu ne peux plus arrêter l'accouchement.
Et alors, le deuxième était un peu prématuré ?
Et du coup, exactement, de par la boutique, etc. Et puis, je le sentais, en fait, déjà, j'ai pris à peine 10 kilos, je le portais très bas. J'avais déjà l'impression qu'il était dans mon col, finalement.
Ah oui.
Ouais. Ouais, même, je me souviens. Il était prévu lui pour mi-novembre, ouais, mi-novembre, pour le 15 novembre je crois, et quand je suis partie plus tôt en Espagne pour ça, parce que tous les ans moi je vais en Espagne, on a une maison là-bas, etc., et j'ai ma deuxième famille, enfin j'ai ma famille, j'ai mes amis d'enfance, etc., et j'avais dit du coup au papa des enfants à l'époque, écoute, comme je sais que j'accouche plus tôt, tout le temps, enfin du coup pour Noah je savais, et puis là je savais qu'il y avait un terrain un peu glissant aussi, j'ai dit on va partir plutôt en Espagne, comme ça voilà, au moins on rentre, on est tranquille, et je crois qu'on est rentré peut-être mi-juillet, un truc comme ça, et je vais voir direct mon gynéco, et je lui dis écoute Nathan, et il me regarde, il me dit ouais non mais là t'arrêtes, tu t'allonges, mais tu vraiment quoi, tu t'allonges, sauf que moi j'avais la boutique, c'était compliqué, donc j'y allais quand même un petit peu. Je restais quand même alitée et alitée avec les pieds relevés. Donc voilà. Après, à un moment donné, il me dit oui, on passait les étapes en fait. Il me dit bon, là, tu viens, tu tiens jusque-là, il faut que tu tiennes jusque-là, etc. Et à un moment donné, il est parti en vacances. C'était mi-août ou un truc comme ça. Donc il a fallu que j'aille voir un autre gynéco. Alors là, c'était pas le même discours du tout. C'était pas la même entente. C'était très compliqué. Le mec froid. Tu sais, il m'engueulait. Et je crois que je l'ai vu deux fois. Et la deuxième fois, il m'a dit non, mais de toute façon, là, c'est simple. Si vous comprenez pas ce que je vous dis, je vous hospitalise.
Ah oui, d'accord.
Non, mais ça va aller en fait. Ne vous inquiétez pas, je vais rester alité, je vous promets. Ah ouais, il était. C'était horrible. Vraiment, j'ai pas aimé du tout. Bref, août passe. Septembre passe. Mon gynéco, du coup, revient. Et alors c'est très drôle, très très drôle, parce que je pense que la vie t'envoie des... Je sais pas, est-ce qu'on ressent les choses, est-ce que... Je pourrais pas t'expliquer parce qu'il y avait absolument aucun signe de quoi que ce soit, mais, parce que c'était donc j'étais prévue pour le 15 novembre, arrivé le 3 ou 4 octobre, je lui dis tiens, je vais faire sa petite valise. Me demande même pas pourquoi, il y avait quand même un mois et demi encore de truc. Et donc le soir du 4 octobre, le papa des enfants vient se coucher, il devait être 1h du matin, tu vois. Il me dit « t'as pas intérêt de me réveiller dans 1h ». Pourquoi il m'a dit ça? J'en sais rien. Toujours est-il que 1h pile, montre en main après, je fissure la poche des os. Non, mais c'est un délire. Alors ce qui est très drôle, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'en fait, je ne savais pas où j'allais accoucher.
Ah oui?
Non, parce que moi j'ai toujours dit à mon obstétricien, je lui ai dit « écoute, c'est simple ». Tu me dis où tu accouches, je vais où tu vas. Je veux pas que ce soit quelqu'un d'autre que je ne connaisse pas. Alors ça, c'était vraiment un truc pour moi, c'était hors de question que quelqu'un que je ne connaisse pas, que j'ai jamais vu de ma vie, m'accouche. C'était pas possible pour moi. C'était mon seul, tu vois, mon seul truc. Et du coup, Noah, j'ai accouché dans le 17e à Paris, alors que nous, on était dans le Val d'Oise, à ce moment-là. Liam, pareil, bah du coup, il était 3h du matin. Je ne savais absolument pas où je devais aller, parce qu'en fait, mon gynéco me disait, bah, par rapport au terme, je t'enverrai là ou là ou là, parce que par exemple, là où j'ai accouché de Noah, c'est une clinique privée, et ils n'ont pas de service de néonat.
D'accord.
Et tu as des stages, je crois, ils appellent ça, voilà. Et du coup, il me disait, bah, écoute, en fonction, tu m'appelleras et on verra. D'accord. Et donc, à ce moment-là, on habitait encore dans le Val d'Oise, et lui, il accouche qu'à Paris. Et donc je l'appelle à 3h du matin, je lui dis écoute Nathan, bah j'ai fissuré la poche des os, où je vais? Il me dit bah tu vas dans le 11e, clinique je sais pas quoi, bref. Donc j'appelle mes parents, je dis 3h du matin, heureusement qu'ils avaient répondu. Surtout que c'était pas du tout le terme, enfin tu vois, on savait pas, voilà. Et du coup, je leur dis bah faut que vous veniez récupérer Noah, enfin on vous le dépose, etc. À l'époque on avait la petite Fiat 500, et alors là, mais branle bas de combat, parce que du coup... Je pense que tu sais que quand t'es assise, ça t'appuie sur le col, donc t'as l'impression que tu vas accoucher. Et là, je me tenais, je dis non, mais là, c'est pas possible, je vais accoucher dans la voiture. Et ils fonçaient, les feux rouges n'existaient pas. On se fait arrêter par les flics, quand même. Enfin, on se fait arrêter. on baisse la vitre. J'ai dit, les gars, je suis en train d'accoucher, je peux pas. Mais vous accouchez où? Je sais pas, dans une clinique pas loin. Bon, ils ont vu que c'était vrai et ils bon, allez-y, tu vois. Et, c'était du grand n'importe quoi. Ils fonçaient et voilà, moi j'étais là en train de me retenir. Non, faut pas que j'accouche dans la voiture. Et puis, à 4, ouais, il devait être 16h ou un truc comme ça. Je remonte, enfin, je suis dans ma chambre et je pense que là ça vient en fait. Là, et donc la sage-femme, une des sages-femmes, me dit bon, bah, on va mettre le monitoring une petite demi-heure ou un truc comme ça. Donc elle me le met. Alors j'avoue, j'avais une belle chambre avec un canapé et donc je vois la sage-femme qui est posée, qui dort. Sérieuse toi? Non mais attends. Et donc au bout d'une demi-heure, le truc il sonne et tout, elle me dit ah, mais ça a pas marché. Je dis ben en fait, c'est pas grave parce que là je vous le dis, je suis en train d'accoucher en fait. Là je le sens, il devait être ouais, 17h, un truc comme ça. Et donc finalement, je n'avais toujours pas prévenu mon gynéco. Donc là, branle-bas de combat, Nathan, faut que tu viennes. Et entre-temps, moi, elle m'avait dit, oui, il faut attendre encore un petit peu, parce que du coup, il prépare la salle. Et moi, j'étais assise, je sentais, donc bon, ça va, comme j'avais une première grossesse, et je suis pas quelqu'un de très douillette, donc je respirais, en fait, j'ai fait tout le travail dans la chambre. Et donc, finalement, on arrive enfin devant la salle d'accouchement. Donc on me dit, bah, faut encore attendre un petit peu. Bon, ok, j'ai dit, bah, j'espère que je vais pas accoucher là. Finalement, on me met sur le lit d'accouchement, et là, il y a l'anesthésiste qui arrive. Et en fait, avant même de vérifier, de m'ausculter, de regarder, tu vois, on me fout la péridurale. Hein? Et au moment où il retire le cathéter, il y a mon gynéco qui arrive et je lui dis, Nathan, je sens que ça pousse. Et là, il regarde et il fait, bah oui, en fait, il est là. Ah, d'accord. Vas-y, pousse. Et là, bah, t'as pas le choix, t'y vas, quoi. Et tu sens tout. Mmh. Ça brûle. Ça brûle très fort. Là, tu sais bien, il y a la tête. Là, tu dis, oh putain. Ah, il y a juste la tête qui est passée. Là, tiens, là, il y a les épaules qui doivent passer. T'as pas le choix. Tu dois y aller. Tu peux pas faire marche arrière. Tu sais que la péridurale n'a pas fonctionné. Enfin, elle est en cours de fonctionnement, oui. Tu vois.
Elle arrivera après.
C'est ça. Bon, ça va, ça a été assez rapide, pareil. En trois fois, c'était plié. Et le premier truc que j'ai mis, il est tout petit. Il était vraiment, mais il faisait 2,7 kg. Je sais même pas s'il est 50 cm. Et au final, bon, ça allait. Ils l'ont un peu intubé quand même. Et ils l'ont mis un peu dans la couveuse parce qu'il n'arrivait pas à se réchauffer en fait. Mais bon, finalement ça s'est bien passé. Et puis les sages-femmes m'ont rassuré en me disant non, mais vous inquiétez pas, le poids, franchement, pour un bébé d'un mois et demi avant terme, sincèrement, il a un bon poids parce que ça arrive des poids de terme qui sont comme ça. Donc elles m'ont dit non, franchement, il n'y a pas de problème et tout. Et bref, donc on le met à côté de nous dans la couveuse, etc. Et donc, bah, tu sais, t'as le temps d'attente dans la salle d'accouchement. Et puis j'ai l'impression que je pars. Je me dis comment ça? J'avais froid, je tremblais. Et je ne sens plus mon corps. Ça montait. Et là, j'en étais ouais, presque à la poitrine, tu vois. Donc ça, je fais me rentre. Et j'ai dit, mais madame, ça va pas du tout. Je sais pas ce qui se passe. Je me sens partir. Et là, en rigolant, elle me dit, ah, bah, on a oublié d'éteindre la péridurale. Oh, bah oui, c'est drôle. Je me marre, les gars. Voilà, donc génial. Donc, comment te dire qu'en fait, en plus de ça, bah, le petit, il a eu la jaunisse. Donc, on voulait me garder super longtemps. Déjà, je suis restée, je crois, 4 ou 5 jours. Donc, c'est quand même relativement long. Je ne pouvais pas tenir plus de 5 minutes debout. En fait, je pense qu'ils ont vraiment merdé. Bah, depuis, la clinique a fermé. De toute façon, je crois que l'année d'après ou l'année ou deux ans... Ouais, elle était en déficit. Enfin, ils faisaient n'importe quoi avec l'argent. Ouais. Et en fait, tu vois, je pense qu'avec le recul, j'aurais pu, à mon avis... Bon, après, est-ce que ça sert à grand-chose? Je ne sais pas. Mais j'aurais pu porter plainte. Parce qu'il n'y a pas eu de vérification quand je suis arrivée. Ils n'ont pas regardé mon col. Ils m'ont mis la péridurale alors qu'elle a servi à rien. Ils me l'ont laissée. Je pense, et ça je l'ai su après, que j'ai eu un putain d'hématome sur la colonne vertébrale. C'est-à-dire que, déjà, bah, je t'ai dit, franchement, je pense que tout le long où j'étais, pratiquement tout le long où je suis restée hospitalisée du coup pour le petit, je ne pouvais pas tenir plus de 5 minutes debout. Ça me faisait des décharges, j'avais des bouffées de chaleur, enfin je pouvais pas. Je te parle de ça il y a 9 ans, je pense qu'encore aujourd'hui je pourrais te dire exactement où on m'a piqué. Ouais. Et après... pendant 6 mois, peut-être 1 an, je ne sais plus. Donc le père des enfants, à l'époque, on était encore ensemble, ne pouvait pas me faire de câlin parce que quand ses bras m'enlaçaient la colonne, ça me faisait une décharge. Ou même quand je m'assieds dans la voiture, tu sais, quand tu te poses sur le siège, t'as l'épine dorsale qui ressort un petit peu. Ça me faisait une décharge. Plein de trucs comme ça, en fait. Mais ça, quand t'es dedans, tu te rends pas compte, tu vois. C'est quand tu grandis, quand t'évolues, tu dis, putain, mais là, en fait, ils ont grave merdé, les gars. Ils sont grave merdés. Mais moi, comme je suis pas quelqu'un, tu sais, c'est vrai que j'ai grandi avec des parents où c'est pas grave. Rien n'est grave, tu vois. Donc bon, bah c'est pas grave. Mais sauf que si, en fait, tu vois, je n'ai pas... Là, j'en parle maintenant, j'ai aucun problème. Mais au départ, je pense... Ouais, toute la première année, au moins... En tout cas, les 6 premiers mois, c'est sûr, je n'arrivais pas à parler de cet accouchement. C'était impossible. Ouais. Ah non. Je parlais de celui de Noah, les doigts dans le nez, sans problème. Mais impossible de parler de celui de Liam. Ça m'angoissait de dingue. Je voulais pas y penser. Je voulais pas... Et tu vois, même... Après, le truc, c'est qu'en plus de ça, ça a été très dur pour moi parce que... Bah, du coup, j'ai repris le boulot, un mois et demi après.
Ah oui.
Donc, Loki, il était même pas fini de former. Bah ouais, t'as une boutique, t'as pas le choix. Mmh. Donc, j'ai vraiment aussi cette frustration. Alors, maintenant, ça va un petit peu mieux, mais j'ai eu très longtemps cette frustration de pas avoir... De pas avoir eu la sensation, et même pas que la sensation, mais de profiter de mon fils, en fait. Mais bon, voilà, il a rattrapé son retard. Enfin, voilà, il a eu aucune séquelle de tout ça. Et pour ça, c'était vraiment cool.
Et la troisième, alors?
Et ben voilà.
La troisième surprise.
Ouais, alors il y a son import... enfin, y a une petite parenthèse qui a son importance, je pense, encore une fois, pour expliquer que, je sais pas, est-ce qu'on sent les choses, est-ce qu'on sait, j'en sais rien. Toujours est-il qu'on avait, on avait déménagé, on a vécu quelques années à Neuilly-sur-Seine. Bah, du coup, parce que par rapport à ma boutique, ça devenait compliqué de gérer les allers-retours, j'en avais ras-le-bol. Et donc, pour se rapprocher, on avait eu la chance de trouver un joli appart à Neuilly-sur-Seine. Mais en fait, il y avait beaucoup de travaux. Beaucoup, beaucoup de travaux. Donc, nous, on avait vendu notre appartement dans le Val d'Oise. Et on n'avait pas eu d'autre choix que de louer un appartement sur Neuilly, du coup. Donc, on loue cet appartement, etc. C'était un tout petit truc. Enfin, on en a eu un premier, parce qu'on en a eu deux. On en a eu un premier près de Porte Maillot, mais c'était tellement drôle. On était dans 30 mètres carrés. À 4, on avait le chien, le chat, mais ça a été une période mais trop rigolote quoi, c'était vraiment cool. Après on a changé, on a pris un petit peu plus grand, mais il y avait toujours qu'une seule chambre, et entre temps je suis tombée enceinte. Et là la question ne se pose même pas, tu vois, il y avait l'appartement en travaux, on était dans ce petit appart, et je sais pas, la question ne s'est pas posée. Et bon, finalement on emménage, etc., dans notre appartement, je tombe enceinte. Et là, j'avoue que secrètement, j'attendais une petite fille. Mais je me disais, bon, je vais être maman que de garçon. Je sentais le truc comme ça, tu vois. Et finalement, on va faire l'écho justement pour savoir le sexe. Et je dis à l'échographiste, je dis, écoutez, est-ce que vous pouvez me noter le sexe du bébé sur un papier, s'il vous plaît? Je veux pas le savoir tout de suite. Et du coup... On arrive à la maison, on rentre, etc. Et là, je déplie le papier, je vois, c'est une fille avec plein de points d'exclamation. Et là, putain, je pleure, mais j'étais tellement contente. Et pareil, grossesse tranquille, je bossais à ce moment-là. Mais pareil, voilà, contraction rapidement, je sais pas, au bout de 6 mois, mais voilà, des contractions de quand t'es resté trop longtemps debout, ton ventre qui se contracte, qui se durcit, etc. Mais rien de fou, mais pareil. On part visiter une maison, parce que là on s'est dit, bon, troisième enfant, l'appartement 65 mètres carrés, ça commence à être chaud. Neuilly, c'est sympa, mais bon, avec des enfants, c'est galère. Donc on part au fin fond, dans le 78, visiter une grande baraque. Donc ça monte, ça descend, il y a le jardin qui fait je sais pas combien de mètres carrés. On marche, on revient, tout ça. Bref. Et dans la voiture, je lui dis, je pense qu'en fait je suis en train d'accoucher. Donc pareil, je me retiens. Je mets les mains en dessous des cuisses et là, je me dis, faut que je fasse rien quoi. Et là, je dis, non, mais donc j'appelle ma petite soeur, je dis, Jérémy, il faut que tu viennes chez moi à Neuilly, elle était dans le Val d'Oise, je dis, il faut que tu viennes garder les petits, je suis en train d'accoucher en fait. Et du coup, elle vient, elle les garde, on va à la clinique. Et là, pareil, branle bas de combat, mais alors là, encore pire, je sais pas, elle voulait absolument pas que j'accouche. Elle me dit, mais c'est mort. Et comme il y avait l'antécédent, moi, où bah, j'accouche toujours en avance, là, elles m'ont mis traitement de cheval. Me mettre la perfusion. Juste après, la nana me dit, la sage-femme me dit, bon bah, j'espère que vous êtes pas cardiaque en rigolant. T'aurais pas pu me dire ça avant, s'il te plaît. Enfin, et alors là, ça a été 2 jours de, j'avais la tremblote, les palpitations, l'enfer. Mais vraiment, alors comment en plus, tout ce qui est médicaments, milieu hospitalier, c'est vraiment un milieu pour moi super anxiogène, tu vois. Et là, on me fout la perfusion et on m'interdit de l'enlever. Je n'ai pas le droit de la quitter pendant 2-3 jours. Et j'avais les palpitations, dès que je m'endormais, ça me réveillait, mon cœur me réveillait, elle venait toutes les heures, je crois, pour vérifier ma tension, tu vois, je mangeais, j'avais la tremblote, l'angoisse. Arrivé donc le 25 septembre, je suis allongée dans mon canapé, j'appelle la clinique, et donc là c'était la même clinique que celle de Noah, parce qu'on avait passé les délais, tu vois, il n'y a plus de soucis. Et je tombe sur un pédiatre. Il me dit, je suis désolée, les sages-femmes, elles sont toutes prises là, il y a trop de monde, mais qu'est-ce qui vous arrive? Je dis, bah écoutez, c'est ma troisième grossesse. J'ai été déjà... on m'a arrêté la grossesse début septembre. Mais voilà, je sens que... Il me dit, venez tout de suite. Ok. Il me dit, là, vous raccrochez, vous venez direct. Bon, j'appelle du coup à l'époque mon mari. Il me dit, oh, vas-y, tu me saoules, à chaque fois tu me fais le coup, bah t'as qu'à y aller toute seule. Je dis, non, mais enfin, il me dit, si, tu vas toute seule. Ok. Donc me voilà enceinte jusqu'au cou, avec des contractions. Mes affaires, je prends la voiture. Alors vraiment, c'était pas très loin, tu vois, on était à Neuilly encore. Et la clinique a été dans le 17e, donc bon, ça va, c'est pas trop loin. J'arrive à la clinique, je monte, et je tombe sur la sage-femme que j'avais pourrie. Elle me dit, oups. Je m'excuse, elle me dit non, vous inquiétez pas, je sais très bien, c'était pas vous, les hormones, tout ça. Enfin, donc je suis rassurée et elle me dit bon, écoute, elle m'ausculte, donc elles savent que j'étais prévue, enfin j'avais un déclenchement le 30 septembre, là donc on est le 25 septembre. C'est un mercredi et elle me dit non, bah écoutez, vous savez quoi, pour moi c'est pas pour aujourd'hui, mais si vous voulez pas d'un déclenchement médicalisé, revenez me voir samedi et moi je vous fais un déclenchement naturel, y a pas de souci, j'ai l'habitude, vous inquiétez pas. Je dis ouais, bah grave, carrément, c'est cool. Elle me dit moi je vous fais un petit décollement, tu vois, quand ils t'osculent, qui peuvent décoller en fait la paroi et du coup te faire un accouchement naturel finalement. Et je dis ah bah ouais, trop bien, parfait. Elle me dit bon bah on attend 5 minutes encore pour être sûr et puis vous rentrez chez vous. Elle part. Et au bout d'une minute, je la rappelle. Je lui dis, bah en fait, je pense que je vais pas vous quitter. Elle me dit, elle revient. Et du coup, elle me dit, ah bah ouais, effectivement. Bah, elle me dit, vous voyez, hein, même au bout de 15 ans d'expérience, on sait jamais, on peut jamais prévoir. Hein. Donc elle me réausculte, elle me dit, bon bah je pense qu'effectivement, elle m'avait ausculté un peu fort. Moi, ça m'avait pas du tout fait mal, mais elle m'a dit, c'est vrai que j'ai été un petit peu plus fort pour, voilà, pour voir, etc., la résistance du col, etc. Je dis, bah, ça a bien marché, hein, c'est bon. C'est pour aujourd'hui. Elle me dit, ah non, là, c'est bon, vous repartez pas chez vous, vous avez votre bébé ce soir. Il était 16h. J'appelle du coup le père des enfants. Et elle me dit, ce qui serait bien, c'est que voilà, vous descendiez quand votre mari arrive et que vous fassiez. Non, on n'était pas mariés en plus encore à ce moment-là. Je dis bêtise. Bref, le père des enfants, du coup, vous attendez qu'il arrive et vous descendez, vous faites une petite heure de marche, vous faites le tour du pâté de maison, etc. Voilà. Sort que votre col il s'ouvre et comme ça, on fait la péridurale et après, ça arrive tout de suite. Je l'appelle, il me dit oh bah attends, j'arrive dans une heure, il reste une heure. T'sais, en plus, il bossait avec mon père, tu vois, c'est pas comme s'il bossait avec X ou Y personne. Donc je dis non, mais enfin là, il faut que tu viennes. Non, tu me saoules, ok. Donc bref, il arrive. Et non, mais le mec, tu sais, enfin bref, quand j'y repense, ça me fait rire. Donc on descend, je commence à marcher, et là, les vraies contractions débarquent, les contractions qui font que tu ne peux plus faire quoi que ce soit. Genre, tu sais, à Paris, quand tu vas pour traverser, t'as les gros poteaux, là. Je m'accrochais à ça. Oui. Et genre, j'étais, mais tu sais, comme ça, serré. Oh, horrible, horrible. Je fais tant bien que mal le tour du pâté de maison. Ça a duré 10 minutes, mais qui m'ont semblé une éternité. Et arrivé au dernier passage piéton, il y a une Smart qui se garde devant moi, qui me voit en train de galérer. Bon, j'étais avec, à l'époque, le père des enfants, mais quand même. Me dit, je vous emmène quelque part. Bah non, la clinique, elle est là, en fait. Ça va aller, c'est les derniers mètres. Je remonte, je m'excuse, je suis désolée, j'ai pas réussi à marcher plus longtemps. Et elle m'auscule, elle me dit, ah mais non, mais c'est bon, vous êtes ouverte à 6. Bah dis donc, c'est rapide et tout. Hein. Ah. Et donc on me fait la péridurale, il devait être, je sais pas, 18h, et à 19h, Lina était arrivée. Et là par contre, j'ai adoré parce que j'ai pu la sortir moi. Moi, je n'ai qu'on m'a proposé. Ah. Et c'était trop bien, quoi. Franchement, pareil, accouchement, vraiment, voilà, à part l'épisode où j'ai marché 10 minutes, où j'ai vraiment douillé, vraiment douillé. Mais après... ça a été trop bien, pareil, une équipe douce, bienveillante, enfin vraiment, ouais, cool.
Et alors, te voilà maman de 3 enfants.
Bah ouais, moi Laetitia, de mon état, je suis mère de 3 enfants, c'est dingue.
Et comment ça s'est passé alors au quotidien? T'as vite trouvé tes marques?
Alors, je vais être très honnête, très très honnête, les 3 premiers mois et demi, à l'arrivée de Lina, ont été très durs. Moi, je les ai allaités. Alors, Liam, j'ai pas réussi. J'ai essayé de tenir un mois, mais il était trop petit, en fait, trop préma pour. Il arrivait pas. Donc, j'ai, à un moment donné, je sentais que c'était pas la peine de poursuivre. Noah, j'ai tenu 3 mois et demi. Après, j'avais repris un peu le boulot, donc bah, j'ai arrêté, hein, par la force des choses. Et Lina, bah, pareil, 3 mois et demi, 4 mois, un truc comme ça, mais j'en avais marre. Vraiment, c'était une question de. C'était purement égoïste. Et puis, moi, j'ai jamais voulu aller trop loin non plus, de toute manière. Mais épuisée, Et puis les 3 premiers mois et demi ont été l'enfer. Je me suis dit, enfin vraiment, à un moment donné, je me suis dit non, mais je vais pas me relever de cette grossesse, enfin de cet accouchement en fait. Enfin, c'était pas l'accouchement, c'est vraiment quand il y a le bébé qui est là, enfin quand Lina est là, je me dis mais je vais pas y arriver parce que du coup le père des enfants bossait. Donc Lina pleurait énormément la nuit, vraiment, tout le temps. Bah, je crois que toutes les nuits elle pleurait. Et du coup, moi, il partait bosser, donc j'avais pas le choix que de me lever et d'emmener les enfants à l'école. Alors après, j'étais à la maison, c'est pas le souci, mais quoi qu'il arrive, ton sommeil, bah, il part. Et puis moi, je suis pas du genre à faire des siestes non plus. Je dormais peut-être un petit peu, mais bon, c'est pas pareil que quand tu dors la nuit. Et j'étais dans un état de fatigue. Ah, mais ça, je me rappelle comme si c'était hier. J'ai vraiment eu cette sensation de me dire, je vais pas me relever, je vais pas y arriver. Et puis finalement, ben, t'arrêtes d'allaiter et puis ça va mieux.
Et alors, comment ça se passait au quotidien avec le papa? Tu disais que vous êtes mariés après?
Exactement, on s'est mariés quand Lina avait elle allait faire 2 ans. Et non, ça se passait très bien. Une fois que ces 3 mois et demi-là étaient passés, on a trouvé nos marques. Enfin, franchement, c'était facile. Finalement, on était restés habiter à Neuilly. On avait mis les 3 enfants dans la même chambre. On avait la chance d'avoir une pièce de vie assez grande, donc c'était cool. Et c'était vraiment le côté pratique de pouvoir faire tout à pied. J'avais l'école juste à côté, la crèche, parce que Lina a eu une place en crèche là où était Liam, et c'était juste à côté. Vraiment juste à côté. J'avais le monop, j'avais tout, enfin le métro. Vraiment, c'est pour ça, c'était hyper cool. Et non, franchement, ouais, il y a eu certainement eu des moments difficiles, mais honnêtement, tu vois, à part ces 3 mois et demi-là, après, j'en ai pas un souvenir négatif, vraiment.
Et l'idée du mariage, du coup, c'est comment ?
Alors, j'ai jamais voulu me marier. J'ai jamais, du plus loin que je me souvienne, j'ai jamais rêvé de la robe blanche de princesse ou quoi, aux caisses. Mais en fait, ce qui était beau à un moment donné, c'est que on s'est mariés en 2015 et en 2014, on fêtait nos 10 ans de vie commune et on fêtait en plus qu'on est de la même année nos 30 ans. Et là, je lui ai dit, franchement, je trouve que pour le coup, c'est une vraie belle occasion de fêter l'amour avec un grand A. C'est pas une excuse, c'est pas de se dire, voilà, on a 3 gosses ou de se dire, tu vois, il y a mille et une raisons de se marier, mais il n'y avait pas juste une simple excuse de dire bon, on veut porter le même nom ou pour les impôts ou quoi, ok, tu vois. Il y avait vraiment une belle symbolique. Mmh. Nos 10 ans, nos 30 ans. Et je me dis, mais franchement, si on ne le fait pas là, enfin. Et on ne l'a pas fait. Et je lui en ai voulu. Vraiment très fort. Je lui en ai voulu. Il y a un moment donné où d'ailleurs, on était en 2015 du coup, et je lui ai dit, écoute, stop, moi j'en ai marre. Il y avait des petites choses qui n'allaient plus, qui n'allaient pas depuis très longtemps. Et je lui avais dit, voilà, moi, j'en peux plus. Cette histoire de mariage, j'ai jamais été relou là-dessus. Vraiment, jamais. Et là, de me dire, voilà, il y avait vraiment une très, très belle occasion de fêter notre union, tu vois. Et on l'a pas fait. Et vraiment, ça m'a fait du mal. Sincèrement, ça m'a fait du mal. Et du coup, j'avais dit, écoute, stop. Et c'est marrant comme parfois les mecs ont besoin un peu de se faire secouer, tu vois, pour comprendre de ce qu'ils ont sous les yeux. Et comme moi, dans ma tête, c'était terminé, je commençais un peu à discuter avec quelqu'un d'autre, tu vois. Et il est tombé sur les conversations. Et je pense que là, ça l'a secoué. Ça l'a vraiment secoué. Et moi, limite, j'étais contente de me dire, ah bah c'est bon, au moins, il a compris, tu vois. J'ai pas de justification à donner, il sait, c'est bon. Et en fait, lui, ça a fait tout l'effet inverse. Il a voulu me récupérer. Et du coup, un jour où il me dit, vas-y, rentre à la maison, s'il te plaît, j'ai besoin de te parler. Et moi, j'étais avec une de mes meilleures amies, ça me saoule, j'ai pas envie, quoi. Elle me dit, allez, vas-y, s'il te plaît, vas-y. Ok, donc j'y vais. Et en fait, là, il se met à genoux et il me demande ma main. Et en fait, bah, j'aurais peut-être pas dû dire oui au final, mais quand c'est ce que t'attends et que tu l'as, bah, ça balaye tout finalement. Et là, tu te dis, ah ouais, non, bah oui, en fait, c'est lui. Et puis voilà, moi, c'est. Je suis pas forcément traditionnaliste, mais par contre en amour, quand je donne, je donne. Je fais pas semblant. Et pour moi, c'était peu importe les difficultés, peu importe ce qui n'allait pas, même si là, en l'occurrence, j'étais partie en quelque sorte, même si j'étais pas partie de l'appartement, mais voilà, finalement, pour moi, l'amour prime sur tout, et quand on est parent encore plus, et quand. Enfin voilà, ça a vraiment tout balayé, et je dis bah oui, bien sûr. C'était au mois de juin, et on s'est mariés au mois de septembre.
Ah oui. Ouais. 2 mois après ?
Ouais.
Ah oui, d'accord.
Ouais, alors après, on avait juste fait la mairie.
Mmh.
On s'était dit, bon, on se laisse. On avait commencé à regarder pour vraiment faire tout. Et finalement, voilà, on s'était dit, c'est pas grave, on va faire la mairie. C'est vrai que toutes les grandes fêtes qu'on fait, on les fait chez mes parents parce qu'ils ont une grande maison en campagne. en semi-compagne, on va dire, mais en tout cas, ils ont voilà, le grand jardin, etc. Et juste, bah, toutes les fêtes importantes, on les a faites chez eux, donc bah, on s'est dit, bah, voilà, le mariage, on le fera aussi chez eux. Et ouais, donc du coup, on a réussi à trouver une date ouais, 2 mois après.
Et donc, vous êtes restés mariés combien de temps ?
Bah, pas très longtemps. 1 an et demi, je crois.
D'accord.
Ouais, c'est ça, on s'est mariés le 26 septembre 2015 et on s'est séparés en juin 2017. Donc tu vois, ouais, 1 an et demi, un peu plus. Mais,
ouais. Et alors cette séparation, toi du coup, maman de 3 enfants,
ouais.
Comment t'as géré tout ça ?
Difficile parce que amour de ma vie, 13 ans de vie commune, 3 enfants. Et que moi, dans la difficulté, pour moi, avancer à 2, c'est primordial. J'ai eu l'exemple de mes parents, mes parents ont surmonté les difficultés. Donc pour moi, c'était hors de question de. Voilà, de quand il y a eu ce. Bah, on va le dire, hein, il m'a trompée. Donc. Quand il y a eu ça, ma première réaction, bon, après avoir pété un câble, bien entendu, hein, ça a été de pardonner en fait. De dire, mais je te pardonne. On va aller de l'avant. Je me suis beaucoup remise en question, enfin j'ai essayé de me remettre en question, de dire, bon, bah. Pourquoi ? Enfin, qu'est-ce que peut-être qu'effectivement, personne n'est parfait. Donc oui, j'ai dû faire des erreurs, j'ai dû faire des choses qui, voilà. Enfin, Et en fait, j'ai voulu raviver la flamme, enfin que je ne pensais pas éteindre, puisque moi, je n'avais pas vent de difficultés dans notre couple, clairement. Après, voilà, un couple de 13 ans. Bon, je pense qu'on sait tous qu'il y a des hauts, il y a des bas, la vie quotidienne n'est pas facile à gérer. Mais l'effet était là, c'est que moi j'étais au chômage pour trouver une maison, tu vois, exprès. Pour avoir le temps de, voilà, de vraiment trouver une maison, la maison qu'il nous fallait, etc. Bref. Et donc j'organise un week-end à Ibiza pour essayer de raviver la flamme. Et en fait, là, il me dit, bah, non.
D'accord.
Ok. Bon, très bien. Et puis voilà, il me balance qu'il m'aime plus depuis 1 an et que est-ce que t'avais pas remarqué ? Ben non. Non. Je l'avais pas remarqué, désolée. J'ai en même temps, si tu ne parles pas, c'est un peu compliqué de savoir. Enfin bref, du coup, je tombe des nues, clairement. Je tombe des nues. Et puis à un moment donné, on tente, on va voir un psy. Et puis le psy, j'ai pas du tout accroché. Enfin, moi, il donnait trop son avis, tu vois, à mon sens. Enfin, moi, je trouve qu'un psy, il est là pour justement te faire prendre conscience, toi. Même des choses, et lui il était trop, tu vois, il mettait son grain de sel, et j'estime que non, en fait, t'as pas à donner ton grain de sel. Et du coup, on a retenté vite fait, et à un moment donné, j'ai compris que non. Sauf que tu vois, je sais pas si c'est un truc de mec ou est-ce que nous les femmes, on a un peu cette force, même dans la difficulté, dans la douleur, d'assumer les choses. Mais à un moment donné, au bout de, ouais, je sais pas, on a peut-être tenté 2-3 mois, mais je sentais que, tu vois, il n'y avait plus rien, qu'il était déjà avec quelqu'un d'autre, tu vois. Je savais. Et à un moment donné, je lui ai dit, écoute, c'est plus possible, pars. Enfin, c'est moi qui lui ai dit partir. Et voilà, il est parti. Ce jour-là, je me rappelle, ça a été, waouh, grosse claque, parce que là, le truc devient réel, tu vois, tu perds l'amour de ta vie. Tu perds la personne dont tu te voyais vivre avec jusqu'à la fin de ta vie, littéralement, tu vois. Ouais. Moi, là-dessus, j'ai vraiment un côté. Tu peux avoir, je pense qu'on va pas se leurrer, tu vois, même si t'aimes une personne, tu peux avoir des petits coups de cœur à droite, à gauche, on est humain. Mais quand t'as quelqu'un dans la peau, t'as quelqu'un, enfin, tu vois, c'est un truc de fou, quoi. Et là, pour le coup, c'était ça. Et donc, tu le perds, il part. Et là, tu te dis, waouh.
Et tu te retrouves avec tes trois enfants,
dans le grand appart, t'as jamais vécu seule de ta vie, jamais. Moi, je suis partie de chez mes parents avec le père de mes enfants, tu vois. Ouais. J'ai jamais vécu seule, je savais pas ce que c'était. Et en plus de ça, moi, j'ai une maman ultra poule. C'est-à-dire que, voilà, c'est les papiers administratifs, le truc, les courses, c'est voilà, les filles d'immigrés, tu vois, elle a vécu des difficultés, ses parents ne parlaient pas français. Elle a été élevée par sa grande sœur, et donc elle sait que c'est dur, et elle veut pas qu'on vive ça, tu vois, donc ultra poule. Mère poule et en même temps froide dans le sens où pas très câline, tu vois, mais quand même très présente. Donc, et là, tu te dis, waouh, je me retrouve toute seule avec 3 enfants dans le bad le plus total. Là, tu te dis, qu'est-ce que je fais, comment je fais, je sais pas. Et moi, ce que je sais faire le mieux, bah, c'est de faire ressortir mes émotions, en fait. Voilà, donc je pleure beaucoup.
devant tes enfants, du coup.
Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Alors,
tu leur expliques.
Ouais, alors pleurer. Ouais, si, si, j'ai pleuré énormément devant mes enfants. Je leur explique. Je leur dis, voilà. Je leur explique. Je crie beaucoup parce que c'est dur, parce que t'as de la rancœur, t'es mal, t'es pas bien. Qu'à côté de ça, bah, comme je t'ai dit, j'étais au chômage, donc il a fallu, bah, ma cocotte, vas-y, relève-toi parce que tu te retrouves à devoir payer un loyer, tu te retrouves à devoir payer des assurances, des trucs que moi j'avais jamais fait, quoi. Je savais même pas, enfin, moi j'avais jamais parlé de l'assurance d'appart, et tout ça, c'était le père des enfants, tu vois, et gérer mon côté financier, pareil, je savais pas trop, parce que pareil, je l'avais tanné avec ça, avoir un compte commun, il a jamais voulu, et il me dit, ouais, t'es tout le temps découverte, c'est pas géré, j'ai dit, ouais, je sais, je m'en rends compte, mais tu m'aides pas, tu vois, j'avais conscience des choses, mais bon, de côté, j'avais pas de répondant, bon, bref. Et puis, bah, finalement, ouais, je trouve un job. J'ai bossé chez Apple, donc trop bien, vraiment génial, mais difficile.
Et comment tu l'as annoncé à tes enfants? Vous étiez là tous les deux, c'est toi qui...
Ah non, 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 lui il est vraiment parti, enfin, non, non, il n'y a pas eu de réunion de famille, entre guillemets, il est parti, il a fallu que je gère, quoi. Mmh. Vraiment, et ça j'en ai voulu très longtemps, surtout qu'il est parti pour quelqu'un d'autre qui a un enfant. Et que ses propres enfants, il ne les prend qu'un week-end sur deux. Et ça, c'est très dur. Enfin, pour moi, en tant que mère, j'ai vraiment cette dualité femme avec un grand F, femme libre, indépendante, femme sensuelle, voilà, qui s'assume. Et le côté maman ultra... alors, ouais, louve, une maman louve. Tu vois, j'ai vraiment les deux côtés. J'ai autant besoin de mon indépendance et de mes sorties que d'être avec mes enfants et d'être là pour eux et voilà. Alors du plus long que je me souvienne, je crois que c'est moi qui ai dû annoncer, enfin lui il a dû leur en parler après, en leur disant que papa et maman n'étaient plus amoureux. Mais non, j'ai dû gérer, je me suis vraiment retrouvée à devoir gérer seule, en fait, seule, bah complètement seule finalement. À gérer ma peine, à gérer mes enfants, à gérer ma vie, reprendre ma vie en main. Enfin, même si elle était déjà en main, mais ouais, remettre les choses dans l'ordre, trouver un job, payer ses factures, le truc que tu... Enfin voilà, quand t'es à deux depuis le début, quand tu pars de chez tes parents, ben... C'est vrai qu'on s'était... Comme lui, du fait que malheureusement ses parents n'étaient plus là, il avait un peu d'argent de côté, il a quand même eu entre guillemets cette chance que sa maman avait des biens immobiliers, etc. Donc voilà, c'est lui qui avait une plus grosse partie financière, on va dire. Donc c'est vrai que c'est lui qui avait le côté gestion financière, voilà, tout ce qui est facture, etc. C'est lui qui payait. Moi, je prenais plutôt en charge la vie quotidienne, c'est-à-dire les courses, les achats des bébés, par exemple. Enfin, voilà, il n'y avait pas vraiment de... On ne s'était pas dit, on fait ci ou ça. En même temps, on était très jeunes quand on s'est mis ensemble. Donc voilà, il n'y avait pas de question vraiment de partage. C'est lui qui avait acheté les appartements. Voilà, il n'y avait pas de notion. Attends, fais-moi de moi, tout ceci, cela. Tu vois, vraiment, on était sur un truc du très, très, très long terme, tu vois. Et voilà, ouais, donc tu dois apprendre... En même temps que t'as ta peine, tu dois apprendre à gérer une vie quotidienne seule avec trois enfants.
Comment ils l'ont vécu, eux ?
Écoute, je pense qu'ils ont toujours été très mamans, de toute façon. Pourtant, lui, il s'en est occupé, hein, pour un moment, il travaillait plus, il s'en est occupé. Mais malgré tout, ils ont toujours été très très mamans, tous. Hein. Tu vois, même Lina, pourtant, on dit les filles avec leur père, ben non, enfin... Tu vois, pourtant, moi, je peux être très dure dans mes propos. Hein. Quand je suis énervée, quand tu vois, je peux être vraiment dure. Mais au-delà de ça, je pense que j'ai un amour tellement sincère, tellement pur, qu'ils le ressentent. Ils savent. Ils savent. Et tu vois, enfin, même quand là, des fois, je m'excuse parce que voilà, j'étais violente dans mes propos. Ou... Parce que ça m'arrive, ouais, ça m'est arrivé de casser des assiettes parce que t'en peux plus, parce que t'es à bout du rouleau, parce que ça fait 15 fois que tu répètes, va te brosser les dents fois 3 et que personne t'écoute, bah ouais, tu casses une assiette ou un truc, je sais pas, tu vois, il y a des fois, bon, bref, voilà. Après, bon, tempérament méditerranéen plus les origines russes de mon papa, ça ne doit pas aider. Voilà.
Mais justement, du coup, ça, c'est tout un côté dont tu parles beaucoup sur ton compte Instagram, Noli.
Il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas. Je sais pas faire autrement. Alors oui, c'est cool de voir des très beaux Instagram, bien mis en scène. Je suis la première à... Voilà, je trouve ça joli, je trouve ça... C'est top, vraiment. Mais je suis pas dans cette démarche-là, moi. Enfin, de toute façon, il n'y a même pas de démarche, parce que je suis tellement... Je pense que pour le coup... Et ça, c'est un truc dont m'a fait prendre conscience le divorce. Je pense que je suis quelqu'un vraiment de vrai, sincère. sans faux semblant, tu vois. Je veux dire, je pense que je l'étais de base, mais le divorce, il l'a amplifié mes fois mille, tu vois. J'ai plus envie de me prendre la tête, j'ai plus envie de prendre de pincettes.
Et tu racontais quoi, du coup
Et bah non, je racontais qu'on s'entendait plus et que ça n'allait plus.
Ton quotidien de maman solo, que c'est dur.
Mais mes enfants, je ne les épargne pas. Mais finalement, ils me le rendent tellement bien. C'est un truc de dingue. Alors, j'espère, j'ai envie de toucher du bois pour pas que ça les traumatise quand ils seront plus grands ou qu'ils aient des séquelles. J'espère vraiment pas. Parce qu'on sait... Bon, malheureusement, de toute façon, même quand on les éduque au carré, on sait jamais ce qui peut se passer. De toute façon, on sait pas. Mais c'est vrai que des fois, je me dis... Ah, vraiment, ma plus grande peur, c'est qu'ils soient pas bien dans leur basket. J'ai pas envie. J'ai vraiment envie qu'ils soient des hommes avec un grand H, libres, indépendants, qui soient fiers de leur choix, qui soient bien dans leur basket, tu vois, qui sachent où ils vont. Pour moi, c'est hyper important. Et vraiment, alors, ce que je mets dans le top number one, vraiment, si je dois parler d'un truc, c'est le respect d'autrui, tu vois. Mmh. Le respect d'autrui pour moi. Et ça, je leur en parle. Et en fait, il y a un moment donné où je parlais avec ma copine Lindsay, justement. Et à un moment donné, elle me dit « Mais tu sais, tu peux pas tout porter sur tes épaules. Il faut que tu sois franche avec tes enfants, mais franche dans le sens propre du terme. » Parce qu'en fait, ce qui est très drôle, et je pense, c'est fou comme la vie, elle te met je sais pas, elle te met sur les rails. Je sais pas comment expliquer ça, mais tu vas certainement comprendre quand je vais te dire. Mais la veille d'aller voir Lindsay, alors que je n'en avais jamais parlé, mais en même temps, les enfants sont pas bêtes. Ils voient bien, tu vois, que leur père, il s'est mis avec quelqu'un, qu'elle a un gosse. Quand ils sont mis ensemble, le petit, il avait 6 mois. Mmh. Et la veille d'aller voir Lindsay, Noah me dit, mais papa, il t'a trompé? Je dis, non, enfin, tu te sens... tu veux pas mentir, et en même temps, tu dis, bon, attends, c'est compliqué quand même, enfin, c'est un terrain glissant, tu vois, tu sais pas. Et donc, le lendemain, je vois Lindsay... Et je lui en parle et elle me dit, mais en fait, il y a un moment donné, ouais, il est petit, il est jeune, mais il est pas bête. Et tu peux pas tout porter sur tes épaules. Et surtout, c'est pas toi la fautive, en fait. Mmh. Alors certes, dans un couple, les torts sont partagés. Là-dessus, je me sens au-dessus de personne, il n'y a pas de problème. Mais il y a des manières de faire. Il y a des manières d'apporter les choses. Et clairement, comment dire,
son procès.
Oui, voilà, exactement, il n'y a pas de procès, mais quand même, je pense qu'il aurait pu faire des choses un peu plus respectueusement, on va dire. Et du coup, en fait, je l'ai dit à Noah. Et sa réaction, ça a été, oh, il est bête. Mais finalement, tu vois, bon, je lui ai dit, parce que je trouve que Lindsay avait raison. Pourquoi je devrais tout porter sur mes épaules? Pourquoi ils n'auraient pas le droit à la vérité? Alors, Liam et Lina, je ne l'aurais pas dit, bien entendu. Lina, surtout, elle est bien plus petite. Liam, il a un caractère très difficile. Bon, je pense que de toute façon, quand ça s'avère vrai dans beaucoup de cas, dans les fratries de 3, celui du milieu a toujours du mal. Parce que t'as le premier, c'est le premier, waouh. Bon, t'as le deuxième, c'est waouh aussi. Mais puis après, t'as le dernier. Et puis là, en l'occurrence, j'avoue, une petite fille. Quand t'as eu deux garçons, que tout le veuille ou non, alors après, bon, chacun, voilà. Mais elle a le rang de petite dernière, quoi. Tu vois, la petite princesse, clairement.
Donc là, ça fait combien de temps que t'es maman solo?
Eh ben là, ça va faire 3 ans. On a signé le divorce. On s'est séparés en 2017 et on a signé le divorce en 2018. Pile un an après, pratiquement. Ça s'est fait très rapidement. Je voulais vraiment le plus rapidement possible dire ça. Et officiellement, on n'est plus mariés, quoi.
Et comment t'as vécu tout ça, toi, en tant que femme, en tant que maman?
Alors, en tant que femme, pour moi, ça a été très libérateur. Ouais. Très, très libérateur. Et surtout pour mon corps, en fait, ça peut paraître bizarre, mais quand j'étais mariée, supposée être heureuse, enfin, la vie classique, entre guillemets, moi, toute ma vie, j'ai fait 55 kilos, et les gens me disaient, mais t'es maigre. Et je disais, mais n'importe quoi, enfin, je mangeais normalement, tu vois, je mangeais de la viande, ça fait 3 ans que je n'en mange plus. Mais voilà, physiquement, je ne prenais pas un gramme, même après mes grossesses. J'étais vraiment très mince. Et donc, on se sépare. Et en fait, j'en ai pris conscience. Quand un jour, tu sais, de temps en temps, je pense qu'on fait tout ça, on regarde nos photos, on trie un peu, j'ai trop de photos. Et je regarde les photos. Et en fait, moi, j'ai pour mes 35 ans, là, j'ai un pote qui est photographe. Et je lui ai dit, écoute, pour fêter ma féminité, ma prise de conscience d'être une femme avec un grand F, j'aimerais faire des photos en lingerie. Et donc on le fait, et je me sens hyper à l'aise. Mais vraiment, révélation, tu vois. Je pense que j'ai toujours eu ce côté-là en moi, toujours, ce côté un peu, alors je vais pas dire exhibe, tu vois, parce que c'est un terme qui est pas beau, mais ce côté très libre, voilà, pour moi un corps c'est un corps, c'est beau, c'est naturel, c'est, tu vois, moi par exemple, moi mes enfants, on sort de la douche, on est nus, il y a vraiment aucun, je veux pas qu'il y ait de, tu vois, pour moi il faut pas qu'il y ait
de gêne,
voilà, après chacun voit midi à sa porte, mais moi j'ai grandi comme ça, et je trouve que c'est très bien. Et je trouve que, tu vois, encore maintenant, je trouve que c'est dommage, il y a des gens qui sont pas à l'aise parce qu'on manque, tu vois, encore de... Et c'est vraiment dommage, je trouve. Et je pense que j'ai toujours eu ça en moi, mais j'ai jamais été au bout du truc, tu vois. J'ai toujours eu cette sensualité, cette féminité, mais finalement, mon physique me renvoyait quelqu'un de plat, de maigre, de... Même si je m'en rendais compte, mais moi, je me voyais pas comme ça, si tu veux, mais quand même... J'avais cette barrière parce que oui, l'image que j'avais en moi, même si je me plaisais, enfin j'étais bien, mais bon, tu vois, il manquait. Et finalement, je fais cette séance photo et tout, hyper libératrice. Et donc, je fais ce tri de photos, et là, je retombe sur des photos de moi en 2017 ou même un peu avant. Et là, je revois et je vois les photos que mon pote m'a fait, et je me dis, waouh, le jour et la nuit, quoi. Genre, j'ai pris entre 5 et 8 kilos, je saurais pas dire exactement. Et où je prends conscience, je me dis, waouh, mais en fait, ton corps, il sait quand ça va pas. Il sait. Parce que finalement, même si là, c'est dur ce que je vis, parce que moi, vraiment, j'ai vécu ça d'une manière... Enfin, après, je pense que j'ai quand même cette chance d'avoir... Je sais pas si c'est une force de caractère ou parce que j'assume mes émotions. Quand j'ai besoin de pleurer, je pleure. Je peux être avec n'importe qui, je pleure. Je peux être dans le métro, je pleure. Je peux être... Non, je m'en fous, je pleure. Et je me dis, bon, bah, soit c'est une force de caractère... Enfin, moi, je le vois comme une force de caractère, je le vois comme une manière d'évacuer ton mal-être, en fait. Et du coup, je sais pas donc si c'est cette force de caractère ou ce truc là, mais je me dis en fait ton corps il sait et il sait que c'est la bonne chose pour toi en fait.
Donc ça c'était le côté physique et ouais. Niveau émotionnel.
Et niveau émotionnel dur, très dur, mais toujours je pense que j'ai vraiment comme encore une fois ce côté force de caractère assez qui est très présent. Et donc du coup j'avance avec moi et mon sac d'émotions quoi. C'est-à-dire que finalement je me sers de cette séparation comme, enfin pas d'un tremplin mais finalement d'un... Alors là maintenant je peux dire quelque chose de positif, à l'époque je le voyais pas comme ça, mais néanmoins ça a été positif dans le sens où moi j'arrivais vers les gens, je dis pas voilà. Par exemple, j'ai un truc tout con, mais l'embauche avec Apple, ça a été... Je suis arrivée devant la nana, je lui ai dit, voilà, c'est simple. Je viens de me séparer du père des enfants. Ça faisait 13 ans qu'on était ensemble. J'ai envie de tout dégommer, en fait. J'ai besoin d'être entourée. J'ai besoin de voir du monde. Je sais que je suis quelqu'un d'hyper optimiste, d'hyper positive. Mais là, voilà, je suis un peu dans le bad parce que, voilà, tout ça. Et en fait, les gens, je les embarquais avec moi, tu vois. Et finalement, je me dis, mais toi, t'as une force, t'as un truc en toi qui est complètement dingue. Tu vois, par exemple, enfin... Je reparle toujours de l'Apple Store parce que ça a été une expérience mais de dingue. Et pour moi, c'était une famille, vraiment, tu vois. Je suis restée un an et demi et ils m'ont surnommé le rayon de soleil de l'Apple Store. Tu vois, et c'est ouf. On est quand même 350. C'est une grosse machine. Et les gens, j'arrivais à créer un lien et les gens repartaient en me faisant la bise ou un câlin.
Ouais.
Tu vois, pour te dire. Et donc, je pense que émotionnellement, c'était dur. Très très dur, mais finalement ce qui m'a sauvée après, enfin voilà, j'ai pas vécu non plus un truc, mais quand même je pense que ce qui m'a sauvée et ce qui fait qu'aujourd'hui je peux dire que ça y est c'est passé, au bout de presque 3 ans je pense que c'est que j'ai laissé mes émotions en fait, j'ai laissé mes émotions prendre le dessus, tu vois, il y a un truc qui je trouve dommage, enfin dommage oui et non, mais c'est vrai que aujourd'hui avec les réseaux sociaux c'est génial. Moi j'aime les réseaux sociaux, je vis les réseaux sociaux, ça nous, enfin voilà, on s'est rencontrés grâce à ça, j'ai rencontré des amis avec un grand A grâce à ça et c'est génial. Là où des fois je trouve que ça peut être dur et je l'ai vécu comme ça moi parfois, c'est ce trop plein de positivité parfois où on te force, pas on te force parce qu'on te force à rien, c'est pas ça le truc, mais où on te dit... Tout le monde se prend pour des psys quelque part et on te dit « Non mais de toute façon, il faut sourire tout le temps. » Mais je trouve que c'est aussi tout important de prendre conscience de ces émotions et de les vivre. Parce qu'à un moment donné, si tu les vis pas, tu vas les cacher au fond de toi. Et c'est là qu'en fait, tu vas péter un plomb au bout de je sais pas combien de temps. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je pense le truc. Et c'est, je pense que c'est aussi ça qui m'a aidée aujourd'hui à être bien. Parce que ouais, j'avais énormément de rancœur. Enfin, je veux dire, bon, voilà, il y a le côté tromperie, ok. Bon, voilà, c'est difficile, mais je pense qu'on peut passer au-dessus. Et puis, il y a quand même le côté l'amour de ta vie pour quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre a un enfant. Et en plus de ça, le père de tes enfants te dit ouais, t'inquiète, on en reparlera. Tu sais, quand je lui parlais de la garde alternée, ouais, t'inquiète, on en reparlera. Au final, on n'a jamais discuté, tu vois.
C'est toi qui gardes les enfants.
C'est moi qui garde les enfants à 100%, il les prend un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Et ça, pour moi, mais ça a été un enfer à assimiler. Vraiment, ça a été très dur en tant que mère loup, en tant que. Pour moi, un père et une mère ont autant d'importance, tu vois. Même si les enfants, je vois bien, hein, c'est moi. Hein. Ils sont, voilà, et pourtant je peux dire que parfois je suis pas facile avec eux, mais ça a été très dur, tu vois. Il y a le côté vraiment couple, puis après il y a le côté parent. Donc le couple, ça a été voilà, pas facile, mais ça a été mis de côté rapidement, oui et non, je saurais pas le définir, mais bon, il y a un moment donné où ça c'était vu et il y avait pas de problème. Puis après t'as le côté parent, t'as le côté t'en veux au père de tes enfants de dire mais comment il peut faire pour vivre en vivant avec quelqu'un d'autre qui a un enfant qui est à la garde et pas avec ses propres enfants. Et là tu dois te relever avec ça, tu dois avancer, et là c'est dur. Et là je me dis mais en fait heureusement, enfin moi je pense heureusement que j'ai accueilli mes émotions, que je les ai vécues, que je les ai laissées prendre le dessus parfois. Ouais, des fois t'as envie de rester dans ton canapé à pleurer, fais. Et même si ça doit durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est pas grave. Il faut laisser le temps au temps, chacun est à son temps de réaction, à son temps d'assimilation. Des fois t'as des gens qui ont besoin d'être accompagnés. Moi finalement des fois c'est vrai que moi je parle beaucoup sur Insta et je demande beaucoup l'avis des gens, et on me dit oui ce serait bien peut-être d'aller voir un psy, d'aller voir il y a plein de choses qui font que. Et finalement aujourd'hui avec le recul, là je sens qu'il y a eu un avant et un après. Ça fait ça doit faire 1 semaine, 2 semaines que je le ressens, tu vois, c'est vraiment là, c'est tout frais. Et finalement, je me dis, en fait, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, comme une grande, et tant mieux. Et là, aujourd'hui, j'ai la fierté de me dire, tu l'as fait. Et en fait, ce qui est fou, c'est que du coup, il n'y a que du positif qui en découle, quoi. Quand pendant 3 ans, tu te dis, putain, mais je suis face à une montagne russe, je sais même pas par où commencer, alors que... Et ce qui est très frustrant, c'est que tu te dis, punaise, physiquement, t'es pas trop mal. C'est peut-être con ce que je dis, mais... Physiquement, t'es pas trop mal.
Parce que le rôle de femme.
Non, mais voilà, parce que moi, en plus, moi, vraiment.
Tu redeviens célibataire.
Non, mais c'est ça, exactement. Donc, physiquement, t'es pas trop dégueu. T'as 3 beaux enfants. T'as un job. T'as des parents, et notamment une maman qui est présente de dingue. T'as des sœurs. T'as des amis de ouf. Tu sais, tu te dis tout ça, et tu te dis, mais merde, mais pourquoi t'es pas bien, quoi? T'as pas le droit. T'as juste vécu un divorce, ça va, arrête, quoi. Et c'est encore plus frustrant, et tu te mets encore plus dans le mal, tu vois.
Tu culpabilises.
Mais grave. Chacun a le droit de vivre sa peine. Et en fait, c'est vrai. Même si tu perds... Enfin, personne n'a le droit de juger le chagrin d'autrui. Personne. Et ça, je pense que c'est aussi un truc qui m'a vachement aidée. Même s'il y a eu des moments où, voilà, ouais, je me sentais un peu coupable, etc. J'ai quand même eu ce truc d'assumer pleinement mon mal-être. Et en fait, j'ai eu un temps de pause. De rien. Tu vois, je te parle de ça, c'était au mois de janvier, je crois. Hein. C'était il y a pas longtemps. Hein. Un temps de rien. Et finalement, y a des belles choses qui me tombent dessus. Mais qui littéralement me tombent dessus. Et là, tu te dis, en fait, ouais, quoi. C'est aussi ça qui m'a aidé à reprendre confiance en moi, c'est de me dire, le job, tu l'as trouvé toute seule. Tu t'es fait des amis avec un grand A, toute seule, comme une grande. Là, je savais pas où j'allais, mais finalement, je prenais quand même des décisions. Même si, en soi, elles me paraissaient pas forcément judicieuses, parce que je me dis, attends, meuf, t'as un job de ouf, Ça dépend pour qui, mais moi en tout cas j'aimais vraiment ce que je faisais, tu vois, mais je l'ai quitté. J'ai eu le cran, entre guillemets, de le quitter. Parce que moi, pour moi, c'est faut avoir du cran. Tu quittes un CDI, t'as 3 enfants, t'as un loyer à payer, enfin bon, tu sais ce que c'est. Donc voilà, pour moi c'est du cran. Et finalement, pendant ces 3 ans-là où moi j'avais l'impression de faire de la merde, hein, clairement, et en fait là, quand enfin ce poids est parti, en fait t'as géré, quoi. T'as géré ta vie. Alors oui, tout n'a pas été parfait, tout n'est pas parfait et tout ne sera jamais parfait de toute manière. Mais en fait, faut juste lâcher prise, quoi. Mon cœur a été vraiment détruit, mis à mal, mis en miettes, vraiment. Et finalement, j'ai rencontré quelqu'un, là, il n'y a pas très longtemps, ça fait à peu près 2 mois. Et là, waouh, quoi, tout a explosé. Toutes les barrières ont explosé et ça fait du bien parce que toi, enfin moi, en tout cas, il y a quelques années en arrière, 3 ans notamment, je me disais, waouh, mais en fait, je pourrais plus, j'aimerais plus gérer personne. Et ça fait du bien et c'est revenu.
Et ça a changé quoi pour toi, la maternité ?
Qu'est-ce que ça a changé la maternité? En fait, ça a rien changé. Ça, c'est le prolongement de moi. Enfin, je sais pas. C'était instinctif, c'était inné, c'était normal. Enfin, Laetitia égale maman, quoi. Et pour autant, tu vois, c'est ça où je voulais en venir tout à l'heure, c'est que Laetitia égale maman, mais Laetitia égale femme avec un grand F. Pour moi, c'est très important. Je sais que j'en parle beaucoup. Mais alors après, je respecte toutes ces mamans parfaites, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de perfection, mais ces mamans qui sont vraiment pour les enfants, enfin à 200%, etc. Moi, je ne peux pas. Moi, j'ai besoin, et je le revendique, et mes enfants le savent, et je leur dis, j'ai besoin de ma vie de femme, c'est hyper important. Je suis autant mère louve que femme à part entière, et où j'ai besoin de mes moments à moi. Et ça, les enfants, ils le savent, quoi. Mais pour autant, ouais, la maternité, je pense que... Je pourrais pas dire que ça... Ça a pas changé, en fait. C'était juste, voilà, la continuité de moi. Tout simplement.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode.
Okay.
C'est quoi pour toi être une maman parisienne ?
Être une maman parisienne, je vais pas dire être une maman stressée, mais quand même, il y a ce petit côté speed. Voilà, je pense que c'est le côté un peu speed, le côté... un peu vite parce qu'on est pris dans le tourbillon, voilà, le tourbillon de la vie, le tourbillon de la ville. Donc ouais, maman speed.
Quel est ton endroit kids friendly préféré à Paris ?
Je vais dire un truc, c'est un peu corporel ce que je vais dire, mais je n'y suis plus, donc l'Apple Store, j'aime beaucoup, les enfants adorent. À chaque fois qu'on y va, ils passent un bon moment. Alors après, bon, moi j'ai les anciens collègues, donc ça aide, mais c'est vrai qu'ils adorent cet endroit et... Donc pour eux, c'est vraiment, je vais dire, ouais, c'est un truc du cœur, en fait, par rapport à mon expérience, etc. Donc voilà.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille ?
Alors, mes projets pour moi, c'est de pouvoir partir un maximum les week-ends. Je vais essayer, enfin, je le fais depuis que je suis séparée, ça c'est un truc que je mets, enfin voilà, je mets un point d'honneur à dès que je peux partir un peu seule ou avec des copines, ou là, tu vois, il n'y a pas longtemps, on a fait un week-end à Marseille, c'était génial. Et avec les enfants, bah ouais, mon but ce serait. C'est vrai que alors je vis moi beaucoup au jour le jour, c'est vrai que les économies, tout ça, c'est pas trop mon truc. Il faudrait que d'ailleurs que je travaille dessus vraiment. Mais là, j'aimerais quand je vais faire en sorte de gagner un peu plus de sous, leur offrir un voyage, mais rien que tous les quatre. On fait beaucoup beaucoup de choses tous les quatre déjà sur Paris, voilà, je les emmène très souvent, le cinéma, enfin voilà, on fait plein de petits trucs. Mais c'est vrai que les vacances, c'est toujours avec mes parents, parce que financièrement, avec 3 enfants, c'est vrai que c'est pas évident, hein, on va pas se le cacher. Et c'est vrai qu'après, je pense que ça peut se faire, mais c'est vrai que par fainéantisme, mais peut-être par souci de priorité, je pense que si tu t'y mets à fond, tu peux trouver sur internet des bons plans, etc. C'est vrai qu'après, j'en fais pas une priorité, mais quand je pourrais, ouais, ce sera de les faire voyager. Vraiment, j'aimerais leur offrir un beau voyage, mais rien que tous les quatre.
Merci beaucoup Laetitia.
Merci à toi de m'avoir accueillie dans ton podcast.
Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Et vous le savez, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre 5 étoiles sur iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Laetitia, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 50 sur le compte Instagram Le Tourbillon Podcast et à laisser vos commentaires. À très vite pour un nouvel épisode.